Le journal, c'est vous, Hélène Philly. Bonsoir, Hélène.
Bonsoir à tous. Affiche, site internet, la majorité présidentielle lance sa campagne en attendant son candidat et donne quelques clés sur les grandes lignes du futur programme. Pouvoir d'achat, salaire au cœur du débat et sur les slogans des dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues de France. Aujourd'hui, dans l'actualité encore, Bruxelles engage le bras de fer face à la Chine sur les produits lituaniens. Nous serons à Vilnius. Le froid qui détraque les tests antigéniques. Nadal, le vétéran, toujours parmi les grands demi-finalistes à l'Open de tennis d'Australie. Et puis la mort d'un homme de lettres, doyen de l'Académie française, René de Obaldia. Il avait 103 ans. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, on parle de cette primaire populaire lancée cet après-midi. Donc les votes ont commencé. Le processus, il est intéressant. Le mode de scrutin, il mérite qu'on s'y arrête. Et on vous l'expliquera d'ailleurs. Mais est-ce que la gauche va en sortir plus forte? C'est une autre histoire. On parle du fond et de la forme. On attend vos appels au 01 45 24 7000.
France Inter.
S'il fallait un signe de plus que quelque chose se trame du côté de l'Élysée, le voici. Les équipes du futur candidat viennent de mettre en ligne un site internet et d'y associer comptes sur les réseaux sociaux, tracts et campagnes d'affichage. Pas de logo, pas de nom de parti, ni de candidat, mais un slogan. Avec vous, 2022. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il préfigure le ton et les thèmes d'une future campagne visiblement souhaitée par Emmanuel Macron.
Puisqu'évidemment, vous vous en doutez, tout est validé, voire piloté par l'Élysée. Et alors voyons les thèmes choisis pour ce premier clip d'une minute diffusé sur les réseaux sociaux.
Je m'appelle Lona et je suis infirmière.
Les Français sont très sensibles à la question du handicap.
Je veux valoriser la jeunesse.
La situation à l'hôpital, l'insertion des handicapés, l'éducation à travers les témoignages de cette infirmière, de ce restaurateur, de cette enseignante et d'autres que l'on retrouve en vidéo sur le site. Emmanuel Macron semble donc vouloir reprendre la recette gagnante de 2017. Beaucoup plus d'économie, de social, de vie quotidienne que d'identité, de sécurité ou d'immigration.
Alors ça c'est pour les thèmes et puis il y a la tonalité.
Où l'on retrouve la bienveillance, mot-clé, vous vous en souvenez de la communication macronienne il y a 5 ans. Les autres parlent d'eux, nous parlons de vous. Ils font campagne contre, nous faisons campagne avec, peut-on lire sur la plateforme. On est loin du « emmerder les non-vaccinés » que beaucoup avaient pris comme la préfiguration d'une campagne clivante et provocatrice. Campagne qui rentre bel et bien dans une nouvelle phase. Hein. 140 000 affiches, dont 35 000 déjà collées à Paris, à Nantes ou à Bordeaux. 500 000 tracts distribués dès ce week-end. Comme le dit un marcheur, Emmanuel Macron n'a plus qu'à s'installer au volant. Les clés sont déjà sur le contact.
La communication d'une campagne qui a toute son importance, disséquer, analyser, mieux vaut éviter le faux pas. C'est pour son clip de candidature qu'Éric Zemmour se retrouve jugé aujourd'hui, accusé d'avoir utilisé des extraits de films, Jeanne d'Arc de Luc Besson notamment, sans autorisation. Il est poursuivi pour contrefaçon. Une audience sans Éric Zemmour à laquelle vous avez assisté. Ariane Grissel, bonsoir.
Bonsoir.
La défense avance l'argument de la liberté d'expression.
Oui, la liberté d'expression, c'est notre moteur, lance à l'audience l'avocat d'Éric Zemmour qui explique qu'il s'agissait d'utiliser des images connues des Français pour faire passer des idées. Son confrère, qui représente Reconquête, invoque, lui, le débat d'intérêt général. Chaque parti prétend s'arrêter à des arguments juridiques, mais en réalité, la politique n'est jamais loin. Le conseil d'Éric Zemmour dit voir dans ses poursuites judiciaires la parfaite explication de ce qu'est la cancel culture. Mon client devrait changer la nature de son discours et plutôt que choisir ses références, aller en chercher ailleurs. L'avocat de Luc Besson avance, lui, le préjudice subi par le cinéaste. Monsieur Besson est marié à une Sénégalaise. Il est à des années de tout ce que peut représenter Monsieur Zemmour, explique celui qui défend également la société Gaumont. Nous travaillons pour tous les Français, pour les faire rire, pleurer, mais jamais pour les partis politiques. Les avocats des plaignants demandent 25 000 euros de dommages et intérêts pour les films Jeanne d'Arc et Un singe en hiver, 5 000 euros par auteur, et le retrait surtout des extraits. Il me semble, quand on est candidat à la magistrature suprême, juge l'avocat de la Société des auteurs, on se doit d'être irréprochable.
La décision doit être rendue le 4 mars. Ariane Grissel, en direct du tribunal correctionnel de Paris. La campagne sur le fond, c'est aujourd'hui plusieurs propositions. Christiane Taubira, comme Anne Hidalgo, propose de consacrer 1 milliard d'euros rien qu'à la lutte contre les violences faites aux femmes, alors que les derniers chiffres font état d'une augmentation de 33% de ces violences l'an passé. Et puis la défense des salaires est déporté dans la rue aujourd'hui par plusieurs candidats. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste Yannick Jadot notamment, présent dans le cortège parisien de la manifestation lancée par la CGT, Force ouvrière, FSU et Solidaires sur la question du pouvoir d'achat. Vous étiez dans le défilé à Paris. Bonsoir Thomas Giraudeau.
Bonsoir.
Où il a été beaucoup question de fin de mois.
Comme avec Alexandre B, mégaphone et caisse de grève dans les mains, avec ses collègues de la FNAC Saint-Lazare à Paris, ce libraire syndiqué chez Force ouvrière se mobilise depuis début décembre.
Alors moi je gagne 1500 euros net après 18 ans d'ancienneté. C'est que dalle hein, par rapport au SMIC. Plus personne dans les salariés FNAC qui sont embauchés à ce salaire ne peuvent se loger sur Paris. J'ai beaucoup de collègues qui sont à plus de 100 km de Paris et qui se font des trajets de 1h30, 2h pour venir bosser.
Et quand le trajet domicile-travail se fait en voiture, la facture carburant plombe le budget. Fatim est aide-soignante à temps partiel, elle touche moins que le SMIC.
Il faut que je fasse deux pleins de 86 euros. Et tout augmente, il y a l'électricité, le gaz. Je suis en plus monoparentale et j'ai une fille qui fait des études. Et vous savez ce que études veut dire au bout. On gratte les tiroirs et tout pour pouvoir finir la fin du mois. Et
autour d'elle, les fonctionnaires forment le gros du cortège parisien. Beaucoup d'enseignants dont le point d'indice est gelé depuis 5 ans. Barbara, professeure au lycée, tend cette banderole.
Depuis la grève, on voit l'horizon. Alors il y a eu la grève des retraites où il y a un moratoire là actuellement. Grâce aux grèves, moi quand j'étais étudiante, on a réussi à faire annuler des projets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de toute façon? Qu'est-ce qui nous reste?
Mais tous les syndicats ne partagent pas son sentiment. La CFDT notamment n'a pas appelé à manifester aujourd'hui.
Il y a une centaine de rassemblements à travers la France, à Tours, Bayonne, Nice ou encore Angoulême. 20 000 personnes à Paris, selon la CGT. La question du pouvoir d'achat aujourd'hui, celle de la retraite demain. La réforme mise en sommeil devrait revenir dans le débat de la présidentielle car plusieurs candidats ont dans leur programme un report de l'âge de départ. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Emmanuel Macron, s'ils se représentent. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, eux, défendent une retraite à 60 ans. Elle resterait à 62. Avec Yannick Jadot. Voici donc de quoi nourrir le débat. Dernier calcul du Conseil d'orientation des retraites. Faire travailler les Français plus longtemps n'aurait pas que des avantages pour les finances publiques. Cela engendrerait aussi d'autres coûts indirects. Fabien Cazot.
5 milliards d'euros de dépenses sociales complémentaires, c'est le surcoût que représenterait un report de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite. Une hausse qui s'explique principalement par des pensions d'invalidité qui se prolongeraient pour les actifs de 62 et 63 ans, plus 1,8 milliard. Un actif sur 10, approchant de la retraite, y est en effet éligible. Il faudrait rajouter 1,3 milliard d'allocations chômage, plus des prestations telles que l'allocation adulte handicapé, le RSA ou encore l'allocation de solidarité spéciale. Des surcoûts qui pèseraient sur le bilan comptable d'un décalage de l'âge légal de 2 ans, sans pour autant remettre en cause les bénéfices que finirait par avoir une telle réforme en rythme de croisière. Au bout de 10 ans, entre les pensions non versées jusqu'à 64 ans, les cotisations sociales et les impôts perçus en plus sur les salaires, le solde serait positif d'une bonne vingtaine de milliards d'euros.
Et puis en bref, après la mobilisation d'hier, le recours en justice, les syndicats d'EDF engagent 2 procédures pour contester les décisions du gouvernement. Français de limiter la hausse des tarifs réglementés.
À 19h08, Hélène, les distances d'épandage entre les champs et les habitations ne bougeront pas.
Entre 5 et 10 mètres vieux, sujet de discorde entre les agriculteurs et les associations qui dénoncent la toxicité des produits. Le Conseil d'État s'était rangé à l'avis de ces dernières et avait donné 6 mois à l'État pour augmenter ces distances. Mais à la date limite, hier, le gouvernement a publié un nouveau texte sans rien changer et ça met en colère les ONG comme Agir pour l'environnement ou Génération Future, représenté par François Veyrette.
On a l'impression que le gouvernement s'assoit sur les décisions du Conseil d'État, n'en fait qu'à sa tête et en tout cas protège la FNSEA en ne voulant concéder aucune avancée sur la protection des riverains en zone rurale par rapport aux épandages de pesticides. Il y avait une injonction qui était claire de la part du Conseil d'État de mettre en place un certain nombre de changements, notamment sur les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et sur l'information du public. On tergiverse, on gagne du temps, on renvoie ça après les élections. Il n'y a aucune garantie aujourd'hui donnée au public qui sera bien protégé. Pourtant, le Conseil d'État avait donné jusqu'il y a 2 jours au gouvernement pour le faire. Donc on va effectivement se pourvoir de nouveau nouveau devant le Conseil d'État pour contester ces nouveaux textes, arrêter les décrets, parce qu'il y a de toute évidence une non-application d'une décision de justice, et ça c'est grave. C'est du temps qui est perdu pour les riverains qui continueront à être exposés encore pendant des mois cette année à des produits dangereux, faute de zones sans pulvérisation pour les produits dangereux. Et ça c'est grave.
François Veyrette avec Célia qui irait. Que l'on se fasse un poulet rôti à la cantine ou au bistrot du coin, on saura désormais d'où il vient. Mention de l'origine obligatoire depuis aujourd'hui sur toutes les viandes et plus seulement le bœuf. Et puis il y aura bientôt une filière de recyclage pour les pots de yaourt, barquettes de viande et de poisson en polystyrène, très peu recyclés aujourd'hui. Les industriels Lactalis, Yoplait et Bigard se sont mis d'accord pour participer au financement. On évoquait il y a quelques minutes les professeurs qui défendent leur salaire. Voici une autre mobilisation près de Lyon, à Vaux-en-Velin. Une équipe enseignante a décidé de passer la nuit dans son établissement pour demander le report des épreuves de spécialité du bac. On attend l'arbitrage du gouvernement dans les prochains jours. C'est un reportage de Mathilde Imberti.
Un campement avec des tentes installées en salle des professeurs. L'opération s'appelle la nuit du dernier chapitre. Nicolas Kemoun y participe, professeur de sciences économiques et sociales.
Ce qu'on veut symboliser avec cette action, c'est que finalement, pour terminer les programmes en temps et en heure pour le mois de mars, on devrait dormir au lycée, donc pour essayer de terminer nos derniers chapitres.
Le retard est commun à tous les enseignements de spécialité. Le Covid complique encore un peu plus la situation, dit un autre enseignant du lycée Robert Doisneau, Gilles Frozy.
On n'a jamais vraiment les mêmes élèves en face, donc c'est très difficile d'assurer un suivi des élèves. En SES, pour mars, on est censé avoir fait 7 chapitres. Je vais boucler le 4e. Voilà. Donc on est très loin du compte, pour les raisons sanitaires que vous savez, mais également parce que les programmes sont très très lourds et qu'ils sont infaisables dans les temps impartis. La philosophie de départ, c'était de faire ces épreuves en mars pour que les notes soient prises en compte pour Parcoursup, sans souci vraiment de la pédagogie. Voilà.
Une seule solution de leur point de vue, le report en juin.
Et ce qu'on aimerait, c'est qu'enfin le ministre anticipe un peu les choses, une réponse rapide du ministre, enfin, qu'elle vienne du bout du monde ou pas, peu importe, mais qu'elle intervienne rapidement.
Une réponse dans les meilleurs délais pour pouvoir calmer les angoisses des lycéens qui, à chaque cours, demandent à leur prof à quoi va ressembler le baccalauréat pour eux cette année. Vaux-en-Velin, Mathilde Imberti, France Inter.
L'éducation nationale qui dément avoir envoyé des autotests périmés aux enseignants ces derniers jours. Un certain nombre de professeurs s'étaient plaints d'avoir reçu des kits de dépistage dont la date de péremption était déjà passée. Le froid, en revanche, ne fait pas de bien aux tests Covid. À une température trop basse, les antigéniques peuvent générer une série de faux positifs. Alors en plein hiver, le risque existe, d'autant plus que de nombreux Français se font tester sous des barnums à plusieurs mètres des pharmacies. Reportage France Bleu Paris, Winnie Claret.
Capuche sur la tête, les pieds collés au petit chauffage d'appoint. Alan attend les patients sous l'une des deux grandes tentes blanches installées sur la place du Trocadéro dans le 16e arrondissement de Paris, serré contre sa collègue.
Frigorifiant, des forts frigorifiants. Par exemple, là-bas, c'est ma tente, mais comme on n'a qu'un chauffage, du coup, je suis mis avec elle.
Le testeur antigénique de 18 ans a commencé il y a une semaine. Il a été formé 2 heures par le centre médical qui l'embauche.
En vrai, c'est bête, hein. On a juste à rentrer un coton-tige dans le nez et après attendre le résultat, Après, on l'envoie à l'infirmière ou l'infirmier. Et il envoie par mail aux patients.
Pas de professionnel de santé sur place. La structure qui gère ces barnums se trouve à 6 km de là. Et les tests restent toute la journée dans le froid, au risque de fausser les résultats et de générer de faux positifs.
Je vais vous laisser mettre le masque sur la bouche.
Pratique tout autre dans cette pharmacie du 15e. Un cabanon juste devant l'officine. Diamanta, étudiante en pharmacie, fait sans cesse des allers-retours.
On rentre tout de suite les ramener à l'intérieur pour que les résultats soient le plus fiables possible.
À part l'écouvillon, diluant et cassette de dépistage restent à l'intérieur. Pas question de compromettre les tests pour le pharmacien Laurent Alouani.
Quand on est responsable de A à Z. Il faut vraiment qu'on communique un résultat le plus juste.
L'Union des pharmaciens d'officine appelle d'ailleurs l'État à multiplier les contrôles des barnums sauvages.
Des incidents qui s'accumulent dans les hôpitaux psychiatriques de Toulouse. Un patient s'est enfui quelques heures aujourd'hui avant d'être retrouvé. Deux autres personnes avaient déjà échappé à la vigilance d'un autre établissement la semaine dernière. Et puis l'ancien pompier volontaire accusé d'innombrables viols de la fille de sa compagne jusque dans le parloir de la prison où il était détenu. Il a été condamné aujourd'hui à 30 ans de réclusion criminelle à Nîmes.
Et puis voici un nouveau différend entre la Chine et l'Union européenne commerciale et politique.
Et c'est la Lituanie qui est au cœur du bras de fer. L'Union européenne accuse la Chine de bloquer les produits lituaniens à l'entrée sur le sol chinois pour punir le pays d'avoir autorisé Taïwan, qui n'est pas reconnu en tant qu'État par Pékin, à ouvrir une ambassade à Vilnius. Bruxelles vient de saisir l'Organisation mondiale du commerce, un soutien bienvenu pour la Lituanie. Christophe Papon et Thibault Lefebvre sont nos envoyés spéciaux à Vilnius.
Les autorités lituaniennes ne s'y attendaient pas vraiment, ou en tout cas pas aussi rapidement.
L'Europe est une puissance, mais c'est aussi une belle au bois dormant et je suis très content qu'elle se réveille et montre ses muscles.
Mantas Adomenas est le vice-ministre des Affaires étrangères lituanien et évidemment, il se réjouit que son petit pays puisse désormais faire face aux géants chinois.
Nous sommes très heureux de cette preuve de solidarité de l'Union européenne et le monde doit se rendre compte que l'Europe est un acteur important et résolu qui est capable de défendre ses États membres. Nous avons autant de droits que la Chine.
Un choix politique donc, avec des conséquences économiques qui présentent cependant certains avantages, selon Eric Wang. Il représente les autorités taïwanaises en Lituanie.
Vous pouvez faire confiance aux produits qui sont fabriqués à Taïwan, mais vous devez vous poser la question. Est-ce que vous pouvez avoir confiance quand ils viennent de pays autoritaires? C'est l'avantage de Taïwan. Nous partageons les mêmes principes et le respect des droits de l'homme.
Human rights principles. Trois secteurs sont essentiellement concernés par les mesures de rétorsion chinoises, le bois, le lait et la production de laser, pour un impact économique limité, seulement 1% de la richesse nationale.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'Ukraine et cette menace aujourd'hui de l'Allemagne. Si Moscou devait envahir l'Ukraine, Berlin pourrait bloquer le gazoduc Nord Stream 2 qui relie les deux pays. Détour par l'Australie à présent, car on a l'affiche de la finale chez les femmes de l'Open de tennis. L'américaine Danielle Collins, 30e mondiale, affrontera la numéro 1, Ashleigh Barty. Chez les hommes, on en est encore aux demi la nuit prochaine. Et parmi les quatre demi-finalistes, il y a un vétéran insubmersible, l'Espagnol Rafael Nadal, qui lui-même ne s'imaginait pas être encore à ce niveau, Fabrice Abgral.
Et pourtant, Rafael Nadal est bien là, en demi-finale, pour la 36e fois en Grand Chelem. Ce qui peut donc paraître banal, ne l'est pas pour lui. Et pour cause, en août dernier, l'Espagnol mettait sa carrière, entre parenthèses, pour soigner une blessure au pied gauche. Cinq mois après, le voilà, toujours en course, pour décrocher ce fameux 21e trophée du Grand Chelem et détenir seul le record mythique du nombre de titres majeurs. Il en est encore loin, lui-même d'ailleurs, n'en parle pas. Mais finalement, pourquoi pas? Rafael Nadal est revenu à la compétition le 3 janvier dernier et depuis, il est invaincu. Il a remporté un tournoi de préparation à l'Open d'Australie et à Melbourne, il a gagné ses 5 premiers matchs. Tout n'est pas parfait, mais il est là. Adrian Manarino, éliminé par Nadal en 8e de finale, a pu constater que malgré ses 5 mois d'arrêt, l'Espagnol n'avait pas tout perdu de son tennis.
En tout cas, il sert très bien. On y pense rarement quand on parle de Rafa, mais c'est vrai que son service est ultra gênant. Et puis après, dans l'échange, il fait quelques fautes, mais il a peut-être encore besoin d'un peu de confiance et de réglage. Mais comme par hasard, quand les points sont très importants, la faute, elle vient pas forcément comme ça.
Rafael Nadal va tenter d'atteindre sa 29e finale en Grand Chelem, la 6e à Melbourne, où il ne s'est imposé qu'une seule fois, en 2009. Il avait 22 ans. Il en a aujourd'hui 35.
L'Espagnol affrontera l'Italien Matteo Berrettini à 4h30 demain matin et l'autre demi opposera le Russe Medvedev au Grec Tsitsipas. Et puis, pour devenir centenaire, il faut commencer jeune. René de Obaldia est mort aujourd'hui à 103 ans. Il était le doyen de l'Académie française, poète, dramaturge. Né à Hong Kong, il grandit à Amiens, touche à tout, pièces de théâtre, romans. Il y a 4 ans et demi, Augustin Trapenard l'avait invité à l'occasion de la parution de Perles de vie, où René de Obaldia rassemblait ses pensées et ses souvenirs.
Dans le journal de Kafka, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Kafka dit « J'ai peu de choses en commun avec moi-même ». Et c'est une phrase de Kafka qui m'a beaucoup frappé, parce que moi j'avoue que cet Obaldia continue de m'intriguer. Parmi les articles qui ont été consacrés, il y en a eu beaucoup. Il y en a un de Jérôme Garcin qui me vient à l'esprit. Obaldia, voilà. Obaldia est le spectateur incrédule d'une pièce qu'il n'a pas écrite, mis en scène à son insu, et dont il joue le rôle titre, sa vie. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça me définit, enfin, définit quelque peu. Je ne sais pas vraiment qui est Obaldia.
Quand vous regardez derrière vous, qu'est-ce que vous voyez?
Eh bien, je vois le pathétique de l'homme. Et bon, j'ai traversé le siècle, effectivement. Et j'ai été, en plus de ça, prisonnier chez les nazis pendant 4 ans et demi. Lorsqu'on est dans un camp de prisonniers, comme ça, il y a plus d'avoir. Ce sont des valeurs d'être que j'ai rencontrées. Et ce qui est merveilleux, c'est la découverte de l'être, puisqu'on n'a rien.
René de Obadia dans Boomerang, c'était en juin 2017. Donc, il offrit de superbes rôles à Michel Simon, Jean Rochefort, Michel Bouquet. Et une œuvre où geignent les jets gélatineux. Ça aussi, c'est joli.
Ouais, c'est joli. Merci beaucoup, Hélène Filly. On se retrouve demain. On reste ensemble, nous, pour le téléphone sonne. On va parler de la primaire populaire, du processus et ce que ça dit aussi de nos envies de démocratie. Un œil sur le ciel avant.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, la perturbation s'enfonce vers le centre et l'est ce soir.
Oui, elle donne seulement quelques gouttes, mais en arrivant sur le nord-est et sur le centre-est, elle peut donner temporairement quelques pluies verglaçantes ou quelques flocons. Ce sera encore le cas demain matin de l'Auvergne et du Lyonnais vers l'Alsace, donc soyez prudents sur les routes. Sur le reste de la moitié nord et sur le sud-ouest, un réveil bien gris demain matin. L'après-midi, ça s'éclaircira un petit peu sur ces régions. Les éclaircies seront plus belles vers le sud-ouest. En montagne, le soleil s'imposera dès le matin. Pareil en Méditerranée, mais avec du vent fort jusqu'à 110 km à l'heure pour le Mistral.
Et sinon, température qui gagne quelques degrés, merci beaucoup.
Oui, le matin, il restera quand même dégelé hein, sur l'est, sur le sud, moins 6 degrés à Aurillac, moins 4 à Grenoble, moins 1 pour Dijon, Bordeaux ou Marseille. Et puis l'après-midi, vous aurez 4 degrés à Dijon, 5 à Nancy, Lyon et Montauban, 8 à Lille, à Paris ou à La Rochelle, 11 degrés à Dinard, 13 à Marseille et 17 à Montpellier.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.